La mer en vous comme un cadeau et dans vos vagues enveloppées, tandis que de vos doigts glacés, vous m'inventez sur un seul mot. Oh ma frégate des hauts fonds, petite frangine du mal, remettez-vous de la passion, venez que je vous fasse mal. Je vous dirai des mots d'amour, des mots de rien, de tous les jours, les mots du pire et du meilleur, et puis des mots venus d'ailleurs. Je vous dirai que je t'aimais, tu me diras que vous m'aimez, vous me ferez ce que tu peux, je vous dirai ce que tu veux, je vous dirai ce que tu veux. Je vous aime.
To sink, we realize it is unmanned. Can you hear the disappointment in the voices of the young as the old look down upon us, down the barrel of their guns? And we're going nowhere. Don't take it as a surprise. I said we're going nowhere. And I can't believe my eyes. Can't believe my eyes. Can you sense the desperation that is riding in the air as you check your phones for updates, acting like you just don't care? Can you smell the dreams dying, not just here but over there? What was once full of hope is now riddled with despair. And we're going, we're going nowhere. And don't take it as a surprise. I said we're going nowhere. And I can't believe my eyes, I can't believe my eyes. Can you feel the pain and sorrow that is living in this land? As the ship starts to sink, we realize it is unmanned. Can you hear the disappointment in the voices of the young as they all look down upon us, down the barrels of their guns? And we're going nowhere. Don't take it as a surprise. I said we're going nowhere. I can't believe my eyes, can't believe my eyes.
Bon. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence aujourd'hui avec un invité qu'on est absolument ravis de recevoir ce soir, c'est Yannick Bosque, autour de son dernier livre qui s'appelle La liberté contre le capitalisme, sous-titré Le républicanisme du XVIIIe siècle et les révolutions à venir. Édité aux éditions Critique, le livre est sorti en 2024. Et comme d'habitude, eh bien, on a une bande-son qui est absolument raccord avec le thème de l'émission de ce soir, puisque vous venez d'entendre un premier titre qui s'appelle Adam Smith and the False Economy, Going Nowhere, c'est un groupe anglais, le morceau est de 2021. Voilà. Alors, on a donc le plaisir d'accueillir Yannick Bosque ce soir avec ce livre, La liberté contre le capitalisme, qui est consacré, alors c'est un livre d'histoire, tu es historien Yannick, tu enseignes à l'université, spécialiste de la Révolution française, et alors dans ce livre, alors peut-être commencer peut-être par ça, présenter un petit peu pour les auditeurs le type de livre voilà, qu'ils auront entre les mains lorsqu'ils se seront précipités pour se le procurer après l'émission, parce que c'est un livre d'histoire, mais c'est un livre d'histoire qui ressemble pas à un livre d'histoire classique, puisque c'est un livre d'histoire qui est aussi militant, hein, ça vous le signalez dès l'introduction, que tu as coécrit avec David Casasas. C'est à la fois un livre d'histoire, un livre de philosophie politique aussi, d'histoire de philosophie politique qui s'articule autour d'un certain nombre de figures, on va en parler. Et peut-être que tu peux commencer par nous dire deux mots sur en fait ce qui a motivé en fait votre projet à toi et à David Casasas, et puis peut-être deux mots aussi sur la méthode que vous avez choisie en fait de mettre en avant comme ça un certain nombre de thèmes bien sûr, mais aussi de figures qui en font un livre à la fois d'histoire et à la fois de pensée politique tout à fait intéressant autour de cette question du républicanisme. Alors pourquoi tous ces choix-là? Ça fait peut-être beaucoup de questions d'un coup. Mais d'abord, d'où vous est venue en fait cette idée d'aller chercher dans la tradition de l'histoire de la Révolution française des concepts, mais aussi des acteurs, pour les appliquer et pour réfléchir sur des questions d'aujourd'hui?
Alors, merci pour cette invitation et de me donner l'occasion de venir discuter avec vous de cet ouvrage. Alors effectivement, David, c'est important de le mettre dans la boucle, parce que David est plutôt du côté de la théorie politique, du côté de la philosophie politique, hein, donc c'est quelqu'un qui enseigne à Barcelone. Je travaille aussi à Barcelone avec lui depuis 15 ans maintenant. Donc on a ensemble et avec des équipes autour de nous essayé de réfléchir à ce que sont les enjeux du républicanisme. Alors, les enjeux du républicanisme tels qu'on le trouve dans nos sources, dans nos archives. Alors, David est plutôt dans la théorie politique, mais il s'intéresse à l'histoire. Il a travaillé sur Adam Smith et sur Adam Smith dans la lettre en fait au XVIIIe siècle. Et moi, je travaille sur la Révolution française de mon côté. Et je m'intéresse à, disons, aux catégories, aux concepts qu'on trouve dans l'archive. Donc, j'ai tendance à trouver des objets philosophiques dans l'archive, à essayer de comprendre comment les acteurs les mobilisent, le sens qu'ils donnent à ces catégories, pourquoi en face d'eux il y a d'autres personnes qui utilisent les mêmes termes et qui disent autre chose. Donc j'ai cet intérêt en fait pour les catégories mobilisées par les acteurs dans l'événement. Et lui, il a on va dire un travail théorique qui est à la base. Il a travaillé avec Van Parys à Louvain, il a travaillé à Oxford aussi avec d'autres philosophes, plutôt du côté de la tradition analytique, hein, anglo-saxonne, mais il a fait un pas de côté pour aller vers l'histoire, donc vers une autre manière de construire les normes que celle de la philosophie analytique, et donc il est curieux de ça. Donc on s'est retrouvé il y a fort longtemps à Barcelone avec une espèce d'accord sur notre manière de travailler et de penser nos objets, alors qu'a priori c'était pas véritablement quelque chose de je connaissais pas, il me connaissait pas. Et dans ces perspectives là il y a des perspectives éminemment politiques en fait, c'est-à-dire que on est de notre monde en fait, on a beau être des scientifiques, historiens, philosophes, universitaires, on est pour eux au monde qui nous entoure, hein. Et donc un historien, je parle de moi, je vais pas parler pour lui mais pour David, mais je pense qu'il serait d'accord, quand on est du 21e siècle, c'est bien les problèmes du 21e siècle que l'on voit, en fait. Je ne vis pas au XVIIIe siècle. En revanche, mon champ d'investigation, mon champ de réflexion, c'est le XVIIIe siècle. Et donc, on nourrit le travail sur l'archive de questions qui sont fabriquées à notre époque. Donc moi, je pose des questions à la Révolution française ou au XVIIIe siècle qu'on ne posait pas il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, parce que c'était pas le même monde. Et que des collègues ont pu poser des questions tout à fait pertinentes pour leur époque, mais c'est plus le cas maintenant. Donc sur les mêmes archives, hein, sur les mêmes gisements d'archives, sur les mêmes textes, il y a des choses qui sont invisibles quand on les appréhende pas avec des questions et qui deviennent visibles quand on les approche avec d'autres. Donc cette proximité du temps présent dans notre investigation, c'est quasiment consubstantiel à ce qu'est la démarche critique et la démarche scientifique. Ça ne veut pas dire qu'on va observer l'archive ou le texte en évacuant des choses qui ne nous plaisent pas. On ne va pas triturer l'archive, mais on va l'interroger avec un angle particulier. C'est des choses qu'on a tous normalement en tête, mais qu'on a peut-être accentué, d'autant plus qu'on estime qu'il y a effectivement là, dans ce qu'on a trouvé, hein, sur le plan du travail d'érudition, en fait, il y a de la matière pour essayer de penser notre monde différemment. Et il y a une tradition puissante, en fait, qui a été complètement fragmentée avec des choses diverses, singulières, qu'on n'a pas rassemblées. Nous, on essaie de regrouper des choses qui ont été complètement encore une fois, fragmentées et donc invisibilisées en grande partie.
Et effectivement, c'est quelque chose qui se lit tout de suite et qui frappe, en fait, je trouve, à la lecture du livre. C'est que, alors, il est construit, alors, apparemment de manière un peu thématique. Il y a des chapitres comme ça, sur différents thèmes. Donc, la liberté contre la liberté, la propriété contre la propriété, le marché, l'État, l'expertise, la civilisation. Et en même temps, alors, c'est peut-être aussi un des effets de ces choix et d'aller questionner, comme tu le dis, une tradition ancienne avec des questions contemporaines. Ça permet aussi de faire émerger comme ça un certain nombre de figures. Alors, c'est des figures connues, mais de les rapprocher alors que le rapprochement n'irait pas forcément de soi dans justement les traditions historiennes, académiques ou habituelles. Alors, ce qui émerge en fait en termes de figures, hein, dans votre livre, donc c'est même Adam Smith, voilà, le père du libéralisme économique, hein, tel qu'il est
celui
consacré.
Que l'on chante dans la bande-son. Là.
Exactement. Thomas Paine, le grand révolutionnaire américain et français. Robespierre, Condorcet. Or, tous ces gens-là sont assez rarement finalement associés entre eux. Et ce que vous montrez dans le livre, c'est que justement, si on va les lire et si on va les chercher avec les questionnements qui sont les nôtres aujourd'hui, hein, c'est-à-dire effectivement que faire de ce projet républicain du 18e, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour répondre à des questions qui sont celles d'aujourd'hui, eh bien, effectivement, on peut avoir intérêt à voir un petit peu, à restituer les affinités intellectuelles et même les engagements, en fait, qu'ils ont pu avoir en commun et qui ont été souvent assez gommés. Voilà, donc, ça, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez découvert peut-être au fur et à mesure de l'écriture du livre ou que vous aviez en tête dès le départ, le fait de rapprocher Adam Smith et Robespierre comme finalement des outils permettant de comprendre ce que peut avoir comme intérêt la tradition républicaine aujourd'hui.
Oui, alors le livre est le résultat de tout ce travail, hein, qu'on a engagé depuis longtemps maintenant, et le fait de passer par trois personnages, parce qu'en fait on est tous les deux intéressés à ces trois personnages, donc on a écrit sur ces trois personnages auparavant, et notre travail a consisté à déplacer ces personnages dans la tradition, dans les modèles explicatifs, dans les récits dont on a hérité, et en les déplaçant Robespierre de ce qu'on imagine être Robespierre, Smith ou Paine de ce qu'on imagine ce qu'ils sont, de nos représentations, en les déplaçant dans ces récits, comme ce sont des gens qui ont des places clés, en fait, dans ce grand récit de la modernité, comme on dit, ça interroge le récit lui-même, et ça interroge sa construction. Voilà, et c'est sur le plan pédagogique, c'est plus facile, en fait, plutôt que de se partir dans tous les sens, d'avoir des personnages, effectivement, qui ne sont pas compatibles. Le récit dont on a hérité font que ces trois personnages, on ne peut pas les penser ensemble. Hein, Paine, les droits de l'homme, Robespierre, la terreur, Adam Smith, le marché fou, voilà. On ne dit pas que ce sont les mêmes. On ne dit pas qu'ils sont interchangeables les uns avec les autres, mais on explique qu'ils ont en commun une certaine idée de la liberté, qui n'est pas compatible avec la liberté telle que on la connaît aujourd'hui et sur laquelle le capitalisme s'est cristallisé et s'est construit. Donc on arrive effectivement à un Adam Smith qui peut être utilisé comme un outil critique du capitalisme, et non pas un Adam Smith qui serait dans la tradition libérale qui a été la nôtre, hein, construite au XIXe siècle, au XXe siècle, et qui a capté le personnage pour en faire un jalon indispensable de quelque chose qui serait naturel, hein, qui serait le capitalisme, qui serait... voilà. Et pareil pour Robespierre, le sortir de sa posture, Thomas Paine n'aime pas Robespierre, par ailleurs. Mais ils ont en commun des manières de penser la liberté, des manières de penser la République, qui sont tout à fait évidentes en fait, hein, et que voilà ce qu'on dit dans le, il y a une démonstration, hein, c'est un, on n'assène pas des vérités, mais voilà, donc ils ont tous les trois ces éléments en commun, et du fait de leur place dans le récit, c'est assez fructueux en fait de les faire rejouer. Alors j'enlèverai dans ce que tu as dit Condorcet,
oui, qui est là un peu en, voilà.
Voilà, Condorcet, c'est un peu le contre-champ, hein, c'est voilà. Condorcet, on le montre comme quelqu'un qui n'est pas de gauche en fait, hein, c'est quelqu'un qui alors la gauche, et la gauche telle qu'on la voit aujourd'hui, qui se dit de gauche et qui est en fait une gauche néolibérale, hein, si on veut, parce que Condorcet, c'est pour ça d'ailleurs que une certaine frange du PS au moment du bicentenaire de la Révolution française, donc des années 80-90, va sortir Condorcet, fabriquer Condorcet comme étant une espèce de référence, parce que, voilà, c'est la modernité du libéralisme, le tournant libéral du Labour en Angleterre, mais aussi le tournant libéral en France, qui peut être adossé, en fait, à la figure de Condorcet. Donc, sortir Condorcet de cette... position, montrer qu'il est en désaccord en fait dans ses écrits avec la manière dont Thomas Paine pense l'économie, pense la propriété, et montrer comment de fait il se rapprocherait de Robespierre. Donc court-circuiter en fait tout ce qu'on a appris. Donc quand tu cites les titres des chapitres, c'est ça, dire on court-circuite ce qu'on a appris. Donc au bout du compte, c'est quoi? Bah, c'est-à-dire que la liberté qu'on a en tête, hein, on peut fabriquer une toute autre conception de la liberté.
Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire, parce que tu disais effectivement le contre-champ pour Condorcet, mais je trouve qu'un des intérêts du livre, alors c'est pas son objet, mais on voit bien en fait que finalement l'histoire qu'on nous a vendue, la Révolution française comme l'avènement, voilà, d'un la République bourgeoise, du capitalisme, d'un marché libre, de la propriété privée, voilà, de l'individu, de la protection des biens individuels, etc. En fait, c'est aussi très intéressant de voir comment finalement ça correspond à une option. Qui a certes fini par triompher à ce moment-là, mais c'est une option qui est discutée, discutable, et qui en fait n'allait pas de soi et n'avait aucune nécessité en fait quand elle s'est produite. Bon, vous parlez aussi évidemment voilà de l'épisode de Turgot, des physiocrates. Donc là, on est juste avant la révolution, mais montrer qu'effectivement le récit qui a fini par s'imposer sur la République est un récit particulier parmi d'autres, sans doute pas le plus intéressant pour nous aujourd'hui. Et voilà, et même, c'est sûr. Même sans doute le et qu'il y a aussi une histoire de nos problèmes, je dirais, de nos problèmes,
oui, tout à fait, oui.
parce que il y a cette voilà le, et c'est en ce sens-là que les contre-champs sont aussi intéressants, parce qu'effectivement c'est pas ce que vous développez le plus, parce que vous allez chercher des outils, vous allez reformuler des concepts, montrer la modernité de certains questionnements et de certaines solutions en fait proposées pendant la Révolution française, mais il y a aussi une manière voilà de relativiser ou de remettre en question ceux qui ont été à l'origine du récit qui est dominant encore aujourd'hui, quoi.
Et c'est ce qu'on appelle le récit des vainqueurs,
bien sûr.
Qui est fixé sur le plan juridique par le code civil. C'est Bonaparte qui va fixer ce récit des vainqueurs, mais effectivement qui est largement débattu et débattu avec des paroles, mais également combattu férocement. La Révolution française étant le moment de l'acmé en quelque sorte, hein, l'apothéose de conflits ou de tensions qui existent déjà dans le XVIIIe siècle. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça de manière particulière. Il y a déjà très fortement une conception critique, hein, du capitalisme émergent au XVIIIe siècle dans les communautés villageoises, également dans une partie des Lumières, hein, qui ne sont pas donc toutes dans une pensée qui serait libérale au sens où on l'entend aujourd'hui, et que tout ça se catalyse dans l'événement révolutionnaire, et il va falloir qu'il y ait 10 ans en fait de lutte terrible, hein, pour arriver à éliminer au fur et à mesure toutes les voies alternatives, toutes les d'autres discours pour qu'il y en ait un qui s'impose dans la violence avec, avec Bonaparte. D'où le fait, effectivement, qu'on est dans la liberté contre la liberté, puisque la liberté qui est portée par ce mouvement, à la fois d'un télo et un mouvement populaire, n'est pas celle que l'on a en tête, que l'État qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on a en tête à l'époque, et à chaque fois, le marché contre le marché, l'expertise contre l'expertise, tout ça, à chaque fois, on a l'idée qu'il y a des contre-manières de penser qui émergent au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, mais principalement au XVIIIe siècle dans le bouquin, qui émergent face à ce qui est la tentative pour l'idéologie capitaliste, en fait, de s'imposer. Et on rappelle que le capitalisme n'est pas quelque chose qui... c'est pas l'argent, c'est pas l'échange, c'est pas le commerce, c'est pas le profit, c'est pas la propriété, c'est pas le marché. Le capitalisme, c'est pas ça. C'est l'obligation de passer par des logiques marchandes. Donc, pour subvenir à ce besoin, la violence du marché qui devient une nécessité. C'est Polanyi qui est derrière. Donc,
la grande transformation.
La grande transformation, voilà. Et donc, le capitalisme n'est pas là de tout temps. Il est pensé, travaillé, réfléchi, théorisé en grande partie dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec les physiocrates. Et face à ça, il y a des réactions. Thompson, E.P. Thompson, l'historien anglais, a expliquer ça, expliquer comment il y avait une culture populaire, une économie morale qui se constituait en Angleterre face à cette violence du capitalisme émergent. On a la même chose en France. Donc évidemment, si on regarde la Révolution française comme ça, on sort de l'idée, bah oui, révolution bourgeoise, le peuple uni autour de sa bourgeoisie, le tiers-état face au roi, le clergé, la noblesse. Voilà, c'est le récit qu'on a construit plus tard, en particulier sous la Troisième République. Donc évidemment, déconstruire ça, c'est...
Et chez Lénine aussi.
Oui, alors, c'est ce qu'on explique, c'est-à-dire qu'on a deux récits, en fait, qui sont les deux mêmes faces, enfin, exactement, les deux faces opposées même logique. Donc on a le récit libéral qui se construit, et on a un récit socialiste entre guillemets, qu'on pourrait appeler, je sais pas, socialiste standard, on utilise parce qu'il y a plein de socialisme, évidemment, mais voilà, il y a un récit qui est productiviste au demeurant, et qui pense les stades nécessaires de l'évolution de l'humanité avec le passage du féodalisme au capitalisme, avec une révolution bourgeoise, et ensuite du féodalisme au socialisme, puis du socialisme au communisme. Ça, c'est la branche socialiste. Le libéral s'arrête évidemment au capitalisme, mais il y a dans les deux cas l'idée qu'il y aurait nécessairement du capitalisme pour que le capitalisme allant au bout de ses contradictions puisse générer
finalement... Il n'y a pas d'alternative.
Voilà, il n'y a pas d'alternative. There is no alternative, exactement. Et on est dans une histoire très déterministe, en fait. Bon, on peut la comprendre. Elle se comprenait au XXe siècle dans un paradigme structuraliste, comme on dit, dans une vision très déterministe de l'histoire. Et là, on est au XXIe siècle dans des approches assez différentes où on ne pense pas qu'il y a simplement des grands déterminismes qui vont expliquer nos comportements, mais que les individus ont eux-mêmes de l'agency, comme dit Thompson, de l'agentivité, une capacité à agir en dehors de ce qui les détermine. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, d'aller du côté de ces agents, Thomas Paine, Robespierre, Adam Smith, pour voir comment eux disent le monde et pas comment on le dit à travers eux en les utilisant.
Ok. Alors, et en même temps, tu disais, c'est une histoire de vaincus, mais c'est pas une histoire pour les vaincus. Bon, ça, on va en parler après. On va faire une première pause musicale, et on va revenir sur les thèmes que vous développez dans la suite du livre.
Intellectual abuse at the Apex opener. Make sure that aristocrats knit rebel-esque hands in their arms. Despite some saints' alarm, so that marriage between bourgeoisie and revolutionary might warm. Uniformed, unisexual beast that I stayed at least. French and Tom. And the victory fuse light round the polar.
love next era. Got a letter. While aestheticism and suicide copulate as part of romance sans sens. Romance sans sens.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa deuxième partie avec ce soir quelqu'un qu'on est très content d'accueillir. Il s'agit de Yannick Bosque qui est co-auteur avec David Cassassas d'un livre qui s'appelle La liberté contre le capitalisme aux éditions Critique. C'est sorti en 2024. Il est sous-titré Le républicanisme du 18e siècle et les révolutions à venir. Et vous venez d'entendre à l'instant un morceau de Mécano qui s'appelle Robespierre Remarks, d'un groupe donc hollandais, puisque évidemment c'est nous allons parler de Robespierre bientôt, il en est question dans ce livre. Tu nous as présenté, Yannick, rapidement un petit peu la genèse de ce projet et puis la méthode et ce qu'elle avait produit lorsque vous avez pensé ce livre avec David Cassassas. On va parler un petit peu de certains acquis ou certains points développés dans le livre. Le républicanisme du 18e, il vous intéresse, tu l'as dit, pas en tant qu'archiviste, mais en tant aussi que militant et pour penser des questions d'aujourd'hui. Parce que on y trouve des conceptions, des outils et des engagements, alors notamment dans le domaine des politiques économiques. Il est question de vous avez travaillé sur les débats autour de la notion de propriété, autour de marché notamment, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut poursuivre sur cette question. Morane, si tu veux peut-être.
Oui, donc vous expliquez que la liberté, c'est. Enfin, tu expliques avec David Cassassas que la liberté, c'est quelque chose qui est conçu comme une non-domination, et ce qui paraît assez incompatible avec la définition qu'on a nous aujourd'hui du marché. Parce que, quand même, le principe du marché et donc le fondement du capitalisme, c'est que le travailleur met à disposition sa force de travail sous contrainte. Notamment des propriétaires, quoi, des capitalistes. Et donc, dans le livre. Vous remettez en cause cette définition, enfin cette vision-là, en tout cas, du marché, notamment avec Adam Smith, qui nous explique qu'il peut y avoir une société des marchés sans pour autant avoir une société de marché. Du coup, qu'est-ce que ça impliquerait en termes de rapport de force, de gestion aussi par l'État du marché, cette redéfinition, en fait, peut-être du marché dans une version républicaine et non pas libérale?
Oui, enfin la tradition républicaine, donc, hein, pour reprendre ce que tu dis, est effectivement fondée sur la liberté comme non-domination, c'est-à-dire que je ne domine personne et personne ne doit me dominer. Donc on est dans un rapport de réciprocité. C'est pour ça que quand on parle de liberté, d'égalité et de fraternité, on croit aujourd'hui que la liberté s'opposerait à l'égalité, la liberté serait je fais en gros ce que je veux jusqu'à temps qu'on m'arrête. En fait, c'est l'idée d'absence d'entrave, ça c'est la liberté qui est la liberté libérale, capitaliste telle qu'on l'a en tête aujourd'hui. Et la liberté républicaine, c'est la liberté pensée avec l'égalité. C'est-à-dire, je suis libre, tu l'es aussi à l'échelle de l'humanité.
Hein. Pas de liberté sans égalité.
Pas de liberté sans égalité, puisque l'égalité est la réciproque de la liberté. Tu es libre et je le suis également. Voilà. Et mettre en œuvre cette politique-là s'appelle la fraternité. Donc la fraternité, c'est prendre au sérieux le fait que la liberté et l'égalité sont pensées ensemble. Et donc si tu penses le marché dans ce cadre-là, effectivement, on n'est pas dans... Il y a de l'échange. Mais on n'est pas dans une situation d'échange dans laquelle certains sont soumis à la domination des autres. Ça veut dire qu'il faut équiper les acteurs qui vont sur le marché d'outils politiques qui vont leur permettre d'arriver à égalité avec les autres dans le rapport d'échange. Et non pas en étant d'emblée comme étant des inférieurs ou qui sont soumis à des logiques telles qu'ils sont obligés de passer par le marché pour exister. Donc un marché républicain, on trouve ça chez Adam Smith, hein, de fait, on trouve ça chez Robespierre. Robespierre dit, mais moi je ne suis pas contre la liberté du commerce. C'est injuste, pareil, mais on n'est pas contre la liberté du commerce. Évidemment qu'on est pour que tout ça circule. Mais c'est parce qu'on est pour que tout ça circule qu'il faut empêcher les monopoleurs, les spéculateurs, les accapareurs, tous les gens qui sont en situation de prédation, en situation de domination, de pouvoir imposer leur domination. Alors comment on fait pour que les gens ne soient pas dominants sur des marchés? Eh ben, il faut se bouger les fesses, en fait, et faire de la politique. C'est-à-dire trouver des rapports de force qui vont nous permettre de faire passer un certain nombre de règles, de contrôles, et si possible que ce soit pas au niveau d'un État ou d'une bureaucratie, mais que ce soit dans les mains de la population, au plus près des situations d'échange. Donc c'est pour ça qu'ils pensent que c'est à l'échelle des communes, à l'échelle des communautés d'habitants, à l'échelle des, à l'échelle locale, en fait, que l'on va pouvoir agir pour que le marché ne soit pas fondé sur le principe de domination. Pas fondé sur, ça ne veut pas dire que ça va pas exister. Donc la politique, c'est pas un truc tranquille, quoi. La politique, c'est de l'affrontement. Donc il y en a bien conscience que tout ça est difficile. C'est pas la montagne. On le dit dans le bouquin, je crois. Les montagnards, tout le monde a appris ça à l'école, quoi. Les montagnards, c'est bizarre comme nom, on croit que c'est parce qu'ils sont en haut à l'Assemblée, mais en fait non, c'est pas ça l'histoire. Ils sont les montagnards parce qu'ils affrontent la montagne politique. Ils affrontent ce qu'on appelle le Sinaï des droits de l'homme à l'époque. Hein. Donc le fait que les droits de l'homme ont été fixés, la déclaration des droits en 89, comme la norme à partir desquelles on va s'organiser ensemble, et ils ont parfaitement conscience, les montagnards, que c'est tout sauf simple, quoi. Et donc il y a des gens qui contournent la montagne des droits de l'homme, qui contournent le Sinaï des droits de l'homme, et d'autres qui vont oser l'affronter. Et affronter la montagne, c'est affronter la difficulté politique. Donc faire que ce marché ne soit pas un marché inégal, hein, faire que ce marché doit être un marché sur lequel on n'est pas dominé, c'est tout sauf quelque chose qu'on décrète. Donc on peut avoir des cadres législatifs et après il faut que les choses soient mises en œuvre. Et ça, on ne pense pas à l'époque, c'est une bureaucratie qui va pouvoir le faire, mais il faut que ça soit au plus près de la population, qui a de toute façon tout à fait intérêt à ce que les choses se passent comme ça. Donc effectivement, on est dans une perspective du marché qui est très très différente de celle que l'on a en tête.
Même dans la plus progressiste qu'on peut connaître, par exemple, on prend souvent comme exemple les pays du Nord, le Danemark, etc. Smith, c'est vous qui le dites comme ça, établit des pare-feux, en fait, l'État est censé établir des pare-feux face au pouvoir du marché. Et ces pare-feux, justement, pour Smith, si j'ai bien compris aussi, doivent être exemptés et pas exposés. Parce qu'aujourd'hui, un pays comme le Danemark, etc., est particulièrement salué comme progressiste parce que, justement, à côté des mécanismes du marché, on établit tout un tas de mécanismes étatiques, de protection, d'accompagnement des individus qui seraient en fait les perdants du marché. Et pour Smith, ce serait plutôt justement l'idée, je ne sais pas si c'est présent dans ce terme-là chez Smith, mais ce serait l'idée de protéger les individus en amont du marché, en leur donnant la possibilité d'entrer sans contrainte sur le marché et surtout de pouvoir en sortir, en fait, s'il y a situation de domination, de pouvoir refuser, en fait, de participer au marché.
Adam Smith, c'est pas révolutionnaire. Thomas Paine, Robespierre sont des révolutionnaires. Adam Smith, c'est quelqu'un qui est plutôt tranquille. Hein. C'est pas quelqu'un qui va mettre le feu partout, mais il essaie de raisonner, de réfléchir de manière rationnelle. Hein. Si la liberté, c'est ça, alors que peut-il se passer? Il y a la métaphore du grand incendie de Londres, hein. 1066, voilà, dire est-ce que la liberté, c'est comme l'incendie qui se répand, ça peut aller partout comme ça, et puis on n'a pas intérêt, en fait, à ce que ça se passe, donc il faut des pare-feux. Donc la métaphore du pare-feu, elle est autour de ça, et Smith dit, dans un passage célèbre hein, de La richesse des nations, il dit, voilà, on faut surtout pas croire hein, que les ouvriers et les patrons aient les mêmes intérêts. Il faut être... c'est une aberration de penser à partir de ça. Et évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Il y a une poignée de types qui vont pouvoir s'arranger entre eux, avoir des appuis politiques et faire en sorte de pouvoir contourner les lois, alors que l'ouvrier ne peut pas attendre. Il faut qu'il mange, etc.
Pas du tout la même urgence, vous dites.
Il n'y a pas la même urgence, il n'y a pas les mêmes facilités d'organisation, etc. Donc Smith est parfaitement conscient de ça. Donc on est devant une situation qui est rationnelle. Et si on essaie de réfléchir à partir de l'idée de non-domination et que la Respublica, la chose commune, le bien public, la République, c'est justement ou la fraternité, si je reprends le langage de Robespierre, qui est à l'origine du triptyque républicain. Si mettre en œuvre ces questions-là est quelque chose qui doit être pris au sérieux, alors, évidemment, c'est avant le rapport de domination qu'il faut agir politiquement et non pas après. Il ne s'agit pas de lancer des bouées de sauvetage à des gens qui sont en train de couler. Il s'agit de donner des outils à des individus pour qu'ils puissent rentrer librement dans un marché, tout simplement parce que collectivement, on a intérêt à ça. On a de l'intelligence, on a de l'envie, on a des motivations, on a des projets. Et collectivement, on a tous intérêt à ce que ces envies, ces motivations, ces projets puissent se construire. Certes, dans l'affrontement, dans le débat, dans la négociation, mais dans le respect des libertés de chacun. Donc, je ne te domine pas et tu ne me domines pas. Donc, les situations d'aide après... Hein, ex poste, t'es dans la panade, donc on va te donner une allocation. C'est quelque chose qu'il faut absolument penser autrement. D'où dans le livre des propositions.
Oui, c'est ça, parce que tu as des traductions politiques très concrètes. Déjà, il y a plein de propositions qui sont faites à ce moment-là pour penser des régimes de propriété qui permettraient en fait de pas exclure la propriété, c'est tout. Hein, c'est ce que vous rappelez, c'est qu'en fait pour des gens comme Smith et encore plus pour Robespierre, c'est tout sauf le pouvoir de jouir comme on veut de ses biens matériels. C'est absolument pas comme ça qu'il faut penser la propriété. On peut penser des régimes de propriété qui permettent justement de pas exclure. Et puis il y a évidemment, alors ça c'est chez Paine, mais l'idée d'une allocation de ressources universelles qui serait une espèce de droit d'entrée dans la communauté républicaine. Donc ça a des traductions politiques très concrètes et qui résonnent pour le coup très fort aujourd'hui.
Oui, tout ça résonne tout à fait aujourd'hui. Et si on parle de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, article 2 de la déclaration de 89, la propriété est un droit naturel. Ça veut dire quoi ? À l'époque, il y a déjà des gens qui disent c'est la propriété des terres, des châteaux, des équipages, des usines, on dirait aujourd'hui, tout ça, c'est mon droit naturel. C'est la lecture du Conseil constitutionnel.
C'est que j'en fais ce que je veux.
Voilà, je fais ce que je veux, je suis libre, c'est un droit naturel, personne ne peut y toucher. Donc, quiconque veut limiter la propriété de la multinationale lambda, de polluer, de faire n'importe quoi,
c'est une atteinte
au droit de l'homme. Voilà. En gros, mais ce n'est pas du tout la lecture qu'a le côté gauche, comme on dit à l'époque, la montagne, de ce principe. L'article 2 qui parle d'une propriété de droit naturel, une propriété sacrée, c'est la propriété qui me permet d'exister. Donc seule la propriété des choses qui me permettent de me nourrir, moi et les miens, est quelque chose de sacré.
Des ressources les plus fondamentales.
Voilà, qui sont les ressources grâce auxquelles je peux simplement exister. Voilà, ça c'est sacré. Tout le reste, non, c'est pas un droit naturel sacré, c'est un objet politique. C'est pas quelque chose qui est inhérent à la nature humaine, c'est spécifique aux sociétés, et on débat de ça. Donc déjà, on a une séparation fondamentale entre ce qui est sacré, c'est la vie, c'est l'existence, c'est le droit à l'existence, et les biens qui permettent de garantir l'existence. Ça, la condition de la République, c'est que ça soit garanti. Si les individus de la République n'ont pas accès à une vie digne, alors on n'est pas dans une République.
On est dans un état de guerre.
On est dans un état de guerre, on n'est pas dans un état constitué. Alors, c'est pas facile, encore une fois, c'est pas tout de suite, mais c'est un horizon. Alors, on n'y arrive pas tout de suite, il y a évidemment des lacunes, mais cet horizon doit être absolument là, sur le plan législatif, hein, parce que c'est la raison pour laquelle on s'est mis en société, on s'est rassemblés. Donc, il y a cette idée qui est absolument fondamentale, et Thomas Paine, il dit, la Terre, l'humanité l'a eu en commun, cette terre. Même si sur un plan religieux, on peut même le réfléchir. Hein. À ces époques-là, ils sont souvent déistes. Hein. C'est le cas de Paine et de Robespierre. Voilà, Dieu a donné en commun la terre aux hommes. Et il y a à un moment donné des prédateurs, des accapareurs qui ont récupéré cette terre et qui en ont fait un objet personnel. Et Thomas Paine dit, ça s'est fait sur un long laps de temps, donc on faudrait éviter de faire violence aux gens qui sont actuellement les propriétaires de ça, parce qu'ils ont hérité de trucs. Mais en même temps, il faut qu'ils aient conscience qu'ils doivent réparer le préjudice. Donc on est dans un monde dissivilisé où je vois une petite quantité de riches, dit Thomas Paine, et une masse énorme de pauvres. Est-on civilisé quand il y a ça ? Est-on dans une république ? Absolument pas. Donc il faut effectivement redistribuer et donc prendre, dit-il, sur les héritages, au moment où il y a une transmission, une somme qui va être distribuée. Alors c'est pas le premier à réfléchir à une somme qui est redistribuée. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez lui, cette redistribution, je vais y arriver, est inconditionnelle.
C'est un droit.
C'est un droit. Et c'est un droit simplement parce que j'ai été spolié de mon droit naturel à accéder à des biens qui me permettaient d'exister. Donc il y a pas, c'est pas de la charité, c'est pas quelque chose qui est du bon vouloir d'un certain nombre de personnes. C'est un droit, c'est une, la réparation d'une spoliation. Donc il dit c'est universel et c'est inconditionnel. Donc même les riches vont l'avoir, dit-il. Voilà, et lui il propose de le mettre en place pour les jeunes, donc encore c'est difficile de rentrer dans la vie, et pour les gens plus âgés, parce qu'il dit c'est difficile de sortir de la vie, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut aider les individus pour qu'ils n'aient pas une existence de dominé, voilà. Et il dit, comme ça on ne dépend pas de la domination des autres, hein. T'es salarié, t'es sous la, la domination de quelqu'un qui te donne de l'argent, t'es obligé de vendre tes services pour pouvoir exister, c'est pas quelque chose qui est acceptable en fait. Donc, si je ne veux pas être dominé, il faut bien que j'ai la possibilité d'exister indépendamment de ce rapport de domination. Mmh. Donc, cette redistribution collective, en fait, permet d'éviter, sur le marché, justement, les rapports de domination.
Ça, c'est des droits, donc, effectivement, qui sont ceux de chaque citoyen et qui permettent à la République d'exister comme une communauté politique. Et tu as aussi, et vous le rappelez, des projets de loi, notamment la loi de Ventose, qui pensent des formes de propriété commune, avec un système un peu de fermage d'État républicain, quelque chose de cet ordre-là, qui vient là aussi renforcer, avec des traductions politiques très concrètes, enfin limiter la propriété privée. Voilà, des accapareurs, et permettre aussi d'accéder à des ressources grâce justement à une intervention de l'État, là, pour le coup.
Oui, tout à fait. Enfin, la notion d'État, enfin, on y reviendra peut-être, mais oui, effectivement, on a, enfin, on disait scolairement, on pense qu'on est devant la volonté de faire une république de petits propriétaires, hein, comme s'il y avait un idéal de propriété pour garder cette dimension bourgeoise, en fait, qu'il y a dans ce qui serait cette révolution du côté de Robespierre et de la Montagne, alors que non, l'objectif, c'est pas de faire des petits propriétaires, l'objectif, c'est de garantir le droit à l'existence. Et donc, effectivement, on peut aider des paysans, des familles à accéder à la propriété, avec des prêts à taux zéro, en leur donnant des terres, etc., etc. Surtout dans les villages où il y a des monopoles, ça permet de casser, hein, de casser les monopoles. Mais Saint-Just est en train de réfléchir à des projets, c'est dans les institutions républicaines, c'est pas dans les lois de Ventose, mais il dit, voilà, on pourrait avoir un domaine public. On ne parle pas d'État, un domaine public
qui notamment récupéré sur les biens de l'Église. Hein,
alors les biens de l'Église, mais là en l'occurrence, il pense à tous les gens qui sont contre-révolutionnaires en fait, hein, les suspects et d'autres, voilà, qui pourraient être non pas donnés comme une propriété, mais loués aux individus. Et encore une fois, comme tout ce qui se passe à cette époque-là, ça vient de la base en fait. C'est ce qui se passe que les très largement, localement, où il y a des terres qui ont été abandonnées, il y a des gens qui n'ont rien et donc qui se commencent à les cultiver. Si les autres viennent d'Angleterre ou d'Allemagne, ils risquent d'avoir des problèmes. Donc il faut leur donner des cadres juridiques pour leur garantir une certaine immunité, en quelque sorte, hein, sur le plan juridique. Donc il y a des lois qui passent. Les lois de Ventoux, c'est ça, en fait. Hein. C'est encadrer juridiquement des pratiques.
Ce qui s'est passé à la base. Hein.
Voilà. Mmh. Donc on encadre ces pratiques, hein, et évidemment, voilà. Donc ça veut dire qu'on va avoir ce type d'accès à la terre, mais de la même manière, les biens communs de la communauté villageoise qui avaient été confisqués par les seigneurs au XVIIe, XVIIIe siècle, qui sont rendus à la communauté villageoise, c'était la grande revendication de la paysannerie. Hein. Et donc, le 10 juin 1793, on rend les terres à la communauté avec la possibilité de les garder bien communs ou d'en faire des objets privés. C'est pas le partage des communaux, comme on le dit toujours. Hein. Le partage est une option possible. On peut les maintenir comme biens communaux. Le fonds peut rester bien communal. Les fruits peuvent être partagés.
On va en reparler après, c'est la dernière partie de l'émission.
D'accord.
Parce que donc, c'est l'analyse que tu proposes des communs. Alors ça, c'est pareil, ça résonne avec.
Voilà, donc j'en parlerai après. Alors.
Ouais. On va faire une deuxième pause musicale rapidement.
Strikes the night.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans voix, sans Johnny, mais la radio sans Johnny Maître, ni publicité. Vous venez d'entendre un morceau qui s'appelle Song for Another Day, d'un groupe qui s'appelle The Prophet Thomas Paine, pour le plus grand plaisir de notre invité ce soir, Yannick Boss, qu'on a le grand plaisir de recevoir autour de son livre qui s'appelle La liberté contre le capitalisme, aux éditions Critiques. C'est paru en 2024. Le sous-titre, Le républicanisme du XVIIIe siècle et les révolutions à venir. Alors Yannick, tu nous expliquais là, dans la deuxième partie de l'émission, comment en fait les conceptions, les débats en fait, les combats autour de l'idée de république et des droits de l'homme au moment de la Révolution française avaient eu des... Alors permettaient évidemment de montrer qu'il y avait beaucoup d'autres options historiques possibles que celles qui ont finalement triomphé et la mise en place du capitalisme qu'on subit aujourd'hui. Et on a vu effectivement dans le domaine économique, hein, la régulation du marché... les régimes de propriété, le projet d'allocation universelle, défendu déjà par Thomas Paine, que ça avait des traductions très concrètes qui résonnent avec des questions aujourd'hui. Alors, un des autres aspects du livre est tout à fait passionnant, c'est la manière dont vous démontez, alors là, de manière très efficace, cette espèce de mythe du centralisme jacobin qui est souvent associé à la figure de Robespierre et dont vous montrez qu'en fait, à regarder les archives, les textes et les discours de la montagne, ce qu'on trouve, bah, c'est à peu près en fait le contraire. Ce qui perd. Alors ça, pour le coup, c'est très stimulant, je trouve, parce que ça permet d'éviter, alors à la fois, bah, toutes les critiques erronées qui ont pu être faites par les libéraux. D'aujourd'hui, hein, qui voit dans la terreur une espèce, voilà, d'ancêtre du totalitarisme, de l'État, voilà, centralisateur et terroriste. Mais c'est aussi des lectures, alors pas de manière critique, mais qui ont pu être faites du côté des marxistes-léninistes, avec l'idée ensuite de capter ou d'hériter d'une forme de centralisme qui, supposément jacobin et qui a servi ensuite de modèle à de nombreux partis d'avant-garde de la classe ouvrière, voilà. Et vous, ce que vous montrez, bah, c'est que c'est absolument pas le cas et que, en fait, là, c'est même une des hantises, d'une certaine manière, de Robespierre, d'avoir une résurgence, en fait, d'un État centralisé, d'une souveraineté centralisée qui serait confisquée au peuple lui-même. Et qu'en fait, il est presque obsédé par cette question-là et qui cherche par tous les moyens, au contraire, à revenir, alors à la base, tu en parlais à l'instant, donc aux communes, hein, et à faire en sorte que, dans une république, on ait affaire réellement à des citoyens qui puissent exercer leur souveraineté et non pas simplement à des administrés, comme ça va malheureusement le devenir quand la montagne va être liquidée.
Voilà, et ça, c'est aussi la tradition républicaine démocratique. Hein. Il y a plein de traditions républicaines. On évoque des traditions républicaines démocratiques. C'est pas Aristote, hein, avec simplement je suis marchand d'esclaves, hein, je suis citoyen, mais bon, les femmes ne le sont pas. Je suis le seul à avoir du pouvoir. Donc là, on est dans une tradition républicaine démocratique qui pense qu'il n'y a pas de pouvoir qui ne soit pas dangereux. Tout pouvoir est dangereux. Et le pouvoir le plus dangereux, c'est le pouvoir exécutif. Donc, les ministres, etc., c'est l'administration, c'est le danger absolu. Et qu'il faut que le pouvoir législatif, qui est le pouvoir le plus important, soit également surveillé le plus près possible. Donc, on est dans un monde où on ne délègue pas notre pouvoir législatif et exécutif en tant que souverain. On continue, en tant que peuple souverain, à posséder en droit l'exécutif et le législatif. Et on va donner à des commis, à des commissaires...
Tu dis, c'est une distinction que vous faites, hein. Vous dites, en fait... C'est pas des représentants, c'est des mandataires.
Voilà, ils s'appellent mandataires. Il y a des débats. Est-ce qu'on peut représenter la souveraineté? Non, on peut pas représenter la souveraineté. Impossible. La souveraineté, elle est dans le peuple. Voilà. Alors, en revanche, on peut avoir des commissions. hein, des mandats, et agir dans un sens. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un contrôle le plus fort possible de ces mandataires. Autrement, il y a des risques, hein, qui sont la tyrannie, tout simplement. Donc ça, c'est une espèce de constante, hein, des discours de la montagne. Mais on parle de Robespierre, mais Saint-Just, Biot-Varenne, hein, pour parler d'un certain nombre de montagnards connus, disent exactement la même chose. Saint-Just dit « la souveraineté est dans les communes ». Voilà. Robespierre, il dit « laissez aux communes le soin de faire ce qui ne nuit pas à autrui ». Hein, laisser au plus près de la population l'administration, l'exécutif. Et c'est un projet qui est dans la Révolution française dès 1789, en fait. C'est pas spécifique aux montagnards. Dire leur projet, c'est surtout de décentraliser, on dirait aujourd'hui, le plus possible ce pouvoir. Et ça, c'est accentué par les montagnards, parlant d'eux, par ce qu'on va appeler la terreur. Donc on est devant un jacobinisme. Ça, c'est une catégorie qui est postérieure, contre-révolutionnaire à l'époque et postérieure. Le jacobinisme, ça n'a aucun sens, hein, pour un historien, et pour les acteurs de l'époque non plus. On est dans un jacobinisme, on dirait, décentralisateur ou déconcentré, parce que pour décentraliser, il faut déjà qu'il y ait une centralisation à un moment donné, ce qui n'est pas le cas. Hein. Et donc on donne le pouvoir au plus près des habitants, et je parlais des biens communaux qui étaient redonnés avec la loi du 10 juin 93 à la population. Donc c'est pas l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, qui va décider quoi faire, mais le pouvoir législatif va donner la possibilité à chaque communauté d'habitants de prendre sa décision elle-même. Donc, qui décide que le bien va rester bien de commune ou va être partagé? La population, les habitants, même pas la municipalité, les habitants. Donc, c'est pas une décision administrative, c'est les habitants, ceux qui vivent là, qui vont décider.
Comme vous le rappelez aussi, c'est effectivement une manière d'accompagner ou d'instituer, en fait, des pratiques. Oui. Qui ont eu lieu, et notamment dans des situations de crise. Alors, même avant la Révolution, hein, il y a autour des pénuries de blé, etc. En fait, ça s'est réglé, ça s'est partagé, très souvent, justement, à l'échelle locale. Et donc,
cela. Voilà, ça se joue à l'échelle locale, et encore une fois, c'est un cadre législatif qui est donné à des pratiques de la population, parce qu'il a déjà commencé à faire ça, en fait. La paysannerie pauvre voulait récupérer concrètement des choses sur les biens de communes, donc il y a un débat. Qui choisit? Il faut avoir 21 ans, être un homme ou une femme. Donc les hommes et les femmes, dans ces communautés villageoises, vont décider sur un objet qui est absolument fondamental, ce qu'on mange, comment on vit, les biens matériels, l'accès aux ressources. Les hommes et les femmes ont le pouvoir de décider, de voter sur le statut que l'on va donner à chaque bien. Et le pouvoir réglementaire, si on laisse les biens de communes, ça veut dire que le pouvoir réglementaire est donné aussi à la communauté villageoise. Donc il y a autant de règlements qu'il y a de communes. Et là encore, ce sont les hommes et les femmes qui décident de la manière dont on va gérer, administrer ces biens de communes. Et là, on est dans ce qu'est l'esprit de la montagne, c'est-à-dire de donner au plus près de la population le pouvoir sur des choses très concrètes, hein, le contrôle de l'économie, le contrôle des suspects. Il n'y a pas de police nationale à l'époque. Le travail de police est toujours fait localement. Donc on a l'idée que on ne peut pas être dans une république si on a un pouvoir puissant, centralisé, où on est dépossédé finalement d'une souveraineté qui est à nous. Je disais, le pouvoir législatif, exécutif, est à nous. C'est pas parce qu'on vote pour des gens ou qu'on choisit des personnes qu'on est dépossédé de ça. On l'a toujours. Et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a voté pour quelqu'un qu'on n'a pas le pouvoir législatif. C'est nous, le peuple, souvent, c'est marqué, hein, dans la Constitution. Voilà. Et donc, on a évidemment une vision de la montagne, j'aime pas trop le terme jacobinisme, une vision de la montagne qui est à l'inverse de celle qu'on nous a vendue, en fait.
Et comme en fait, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, la figure du citoyen administré, ça c'est Napoléon, ça.
Absolument. C'est revendiqué, hein. Donc c'est théorisé. Il faut absolument faire en sorte que ces citoyens qui ont fait n'importe quoi, qui ont été constamment délibérants, qui ont pris des décisions, qui ont engendré une terreur, hein, que ces gens-là soient canalisés le plus possible.
L'anarchie, tu disais.
L'anarchie. Robespierre est traité d'anarchiste. Hein. On dit que c'est l'anarchie, voilà. Et il voulait être tyran, donc pour être tyran, il a favorisé l'anarchie. Hein. Donc effectivement, quand on regarde comment ça marche, on dirait pas, je sais pas si on dirait anarchie, peut-être aujourd'hui dans sa version moderne, quand on a retourné le désignant pour en faire un objet politique au 19e siècle. Mais effectivement, on est devant quelque chose qui est un pouvoir dans les communes, au plus près de la population, et face à ça, des gens qui, au contraire, voudraient verrouiller cette souveraineté populaire qui leur expose à la figure, hein, et la canaliser. Et Bonaparte, c'est le moment où on arrive finalement, enfin, pour eux, en fait, à canaliser quelque chose qu'ils ont subi. Ils disent très clairement dans les textes, on a subi le peuple, on n'a pas réussi à le canaliser. Et il faut faire en sorte, donc, que tout ce qui était de l'ordre de la citoyenneté, donc l'administration locale, la prise en charge du pouvoir exécutif localement, le contrôle des lois, etc., tout ça soit redonné à des spécialistes, à des experts, et que le sens des sociétés, d'ailleurs, soit redonné aux experts. Eux seuls savent ce qu'est le bien public. C'est pas les citoyens lambda qui peuvent dire ce qu'est le bien commun. Non, il faut savoir ce qui est bon pour tous, et donc être du côté d'une vision que le peuple de base, avec son sens commun, n'est pas capable d'avoir.
Et c'est là où on est dans le contre-champ Condorcet. Là, dont tu parles.
Voilà, et Condorcet fait partie de ceux qui théorisent ça. Il dit, en gros, il faut éduquer le peuple. Alors ça, on la garde. Enfin, il faut instruire. Il dit pas éduquer. Il faut instruire le peuple. Parce que le peuple ne comprend pas qu'il y a des lois, des grands déterminismes économiques qui s'imposent à nous et qui vont faire que naturellement, le marché va équilibrer l'offre et la demande, va équilibrer les intérêts. Il dit, contrairement à ce qu'on pense, les riches et les pauvres ont le même intérêt.
Parce qu'il va y avoir ruissellement, notamment.
Absolument. Et là, on retrouve des trucs qu'on connaît bien. Donc, ce ruissellement, on parle d'égouttement, allez, au XVIIIe siècle. Hein. Voilà, mais il y a effectivement cette idée que le plus riche a intérêt à s'enrichir parce que naturellement, tout ça va être redistribué. Et on a effectivement dans leur esprit à eux, ils sont républicains, mais d'une autre manière, on a un horizon d'égalité. Hein, le marché, c'est le marché qui est le lieu où va se construire cette égalité, qui va faire que les êtres humains seront moins dominés, en fait, parce qu'ils vont avoir accès à des biens, ils vont pouvoir contrôler les ressources, parce qu'ils auront été embauchés par le propriétaire, etc. etc. Donc Condorcet a une vision d'un marché positif, hein, avec des équilibres naturels. Adam Smith, pas du tout. Il n'y a aucun équilibre naturel. Ça ne fait que frotter chez Adam Smith. Hein. Donc il faut de la politique tout le temps. Chez Condorcet, surtout pas. Donc l'image qu'on a de Condorcet est là aussi un peu inversée.
Ben, hein. Il faut de la politique, mais pas la même.
La politique de Condorcet, c'est de ne rien faire.
C'est ça.
C'est de ne rien faire et de faire en sorte que le peuple comprenne qu'il a tout intérêt à donner, à déléguer le pouvoir aux experts qui seuls sont capables de saisir ces grandes logiques.
Ça suppose de lui réexpliquer parce qu'il comprend mal.
Voilà, il ne comprend pas très bien naturellement.
C'est une politique.
C'est un État qui agit sans ce sens-là, en fait. C'est ce que vous dites, le marché ne peut pas exister sans institution et sans une volonté institutionnelle de créer ce fameux marché qui obéit à des lois physiques.
Voilà, donc le marché a toujours été encastré dans la politique. Donc là, c'est ce qu'on nous vend en disant qu'il y a une autonomie du marché. Chez Condorcet, il y a l'idée que le marché se suffit à lui-même. Hein. Chez Jean-Baptiste C, qui en est l'héritier, c'est à peu près la même chose. Donc il n'y a pas besoin de faire de politique, puisque
Faut que les gens comprennent quand même.
Mais il faut que les gens comprennent.
Donc, la politique a quand même un rôle.
Il faut bien les mettre dans la boîte et faire que l'école administre cette logique-là. Donc la toute-puissance du marché et de l'économie qui est finalement la panacée pour s'organiser en société. Il n'y a plus besoin d'intervenir, dit Condorcet. Il n'y a plus besoin d'avoir quelque chose. Il y a simplement besoin de réguler ces mécanismes et plus d'intervenir.
Et en même temps, tu disais, je reviens juste sur Robespierre très rapidement. En même temps, je trouve que c'est aussi un des intérêts du livre, c'est de montrer que, tu disais, voilà, retour aux communes, administration au plus près de la souveraineté du peuple, par le peuple, et limiter au maximum l'ingérence de l'exécutif, d'un exécutif centralisé. Et en même temps, tu vous rappelez bien tous les deux que, en fait, ça se pense pour la montagne, dans le cadre d'un régime représentatif. On n'est pas, justement, ça permet de sortir des débats parfois un petit peu circulaires, là, entre démocratie directe, démocratie représentative. Non, on est bien dans un cadre représentatif, voilà, mais démocratique au sens fort du terme et concret du terme, pour le coup.
Voilà, effectivement, la notion de démocratie directe n'existe pas à l'époque. C'est des historiens, Soboul, entre autres, hein, historien de la Révolution française, qui l'a plaqué sur ça. Non, à l'époque, on est toujours dans la représentation. Il y a toujours, même au l'échelon le plus local, il y a des gens qui représentent. Donc si on est dans la représentation, il faut penser ce qu'est cet acte qui consiste à représenter l'autre. Donc ça veut dire quel type de relation j'entretiens avec la personne qui me représente. C'est ce qu'on appelle à l'époque la relation de fidéicommission. Donc une relation asymétrique. Donc celui qui est le représentant n'a pas de pouvoir, il n'a que des devoirs, il n'a pas de droit, il n'a que des devoirs. C'est le commettant, celui qui donne la commission qui a le pouvoir et qui peut révoquer tant qu'il veut, n'importe quel individu qui le représente. Donc ça interroge ce qu'est la nature de la représentation. Et nous, on a oublié que la nature de la représentation, qu'on a aujourd'hui, on doit l'interroger. Pas la mettant face à une démocratie directe, mais en la mettant devant ce qu'est l'acte de représenter.
Eh ben, ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On te remercie beaucoup, Yannick, pour ces explications passionnantes là autour de ton livre « La liberté contre le capitalisme », publié aux éditions Critique en 2024, que tu as coécrit avec David Casasas. On va se quitter avec un dernier morceau, alors toujours en rapport avec le thème de l'émission de ce soir. Mathieu Bionès, « Elle s'arrache la liberté », un morceau de 1989. À la prochaine fois.
يرلالك ذي يقز يقوم يضلق وعواز ولق نغرام يرلالك ذي يقز يقوم يضلق وعواز ولق نغرام يرئيس من دقم رزمي بغليتي تايت حسد يدي الصورام عضريت الدون رزمي رارام ويدي تراجون هدس الغشنام أضريت الدون رسمي رارام ويدي تراجون هدس الغشنام خس عطل غرثي تتسونتك في الشدام في مرح صيغات فغاق جونتي لبغي داعك وزوي ترارام لمرح صيغة دفغة قجون في البغي ذاعب وزوي قترارا ذقني وتفكن لهذور ألما نسروغ العروري قمض نصود بكني وسفكن لهذور ألما مسروغ العروري قمض نصول يتسلقي نغل هذور ألما يسن وقرر ذاش يسوى ثمور وقد غازي كام أنسن سن المور أغي حس مرام أركس تام الطود وقد غازي كام أنسن سن المور أغي حس مرام أركس تام الطود توصل في الحذر يلها نقول ونطن الزود في اللي ما تشيب وسام ورد اللي يروزي كغيب أنا غد زهود في اللي ما تشيب وسام ورد الشق وروزي كغيب أنا غد زهود سويت جحر شاون وغص عذران ورسف شلغي مذان سويت جحر شاون وغص عذران اما تثر هوي من مجدني مذن ناذ مجدن ريفري وران الزير عزيز سوق سرت كفان اندي يقيم في سجار السام انتي عزيز سوق زرت كفام انتي قيمة تي سجار السام بوحوة صارتي لاعب اندي مشو من راديو والي يكشي زمانك اسكلو ولفي ولفني وكنس يضلق هاي متيشر وطرغام
يجلو وين في ولفني وكن سير القبائل تيشر وضرغا أزبلو وين في ولفني وكن سير القبائل تيشر وضرغا أزبلو وين في ولفني وكن سير القبائل تيشر وضرغا أزبلو وين في
chagrin de ceux qui restent. Les morts s'en foutent, eux ils se tirent, se font la malle, ont même plus besoin de leur veste. Mais c'est nous qui restons là nus sur le dernier quai de la gare, la main serrée sur le mouchoir qui ne s'agitera jamais plus, qui ne s'agitera jamais plus. Mon vieux chien est parti au firmament des bêtes sur la planète des molosses. Sans un pleur, sans un cri, il a tourné la tête vers le paradis des nonos. Mais c'est moi qui reste pendu derrière les barreaux de ma cage, la main serrée sur le pelage que je ne caresserai jamais plus, que je ne caresserai jamais plus.